La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Cube Radio. Le combat pour imposer la langue française au Québec ne sera jamais terminé. Il a mobilisé des générations qui ont réussi, par passion, à ne jamais baisser la garde. Mais il faut faire preuve de témérité si l'on veut prédire l'avenir.
Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense haut et fort. Aujourd'hui, la langue dans tous ses états, première partie. Denise Bombardier, bonjour.
Bonjour.
Denise, j'avais hâte de parler du sujet des deux prochains épisodes avec vous aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Votre outil de travail aussi principal, c'est-à-dire la langue française.
Oui, c'est un des principaux combats de ma vie. Ça me vient du fond de mon enfance. On en parlera si vous voulez. La défense de notre langue, de la qualité de notre langue, c'est ma passion, ça a traversé toute ma vie. Je continue d'y croire, mais évidemment, puisque je suis lucide avec l'âge, en voyant la situation telle qu'elle se passe aujourd'hui, en sachant par exemple qu'il y a la moitié des Québécois qui sont des analphabètes fonctionnels, qui peuvent pas écrire correctement, qui peuvent pas comprendre un texte qui est un texte simple. Et on a un problème avec la langue qui, si on n'y fait pas attention, dans l'avenir, peut devenir une catastrophe.
Vous êtes alarmé quand même par l'état
Je suis très alarmé.
Au Québec ou dans le monde? Est-ce que le Québec est vraiment à part?
Mais écoutez, s'il n'y a pas de France, il n'y a pas de Québec. Je veux dire, on peut pas être Astérix. Hein, on peut pas être les derniers à défendre la langue française. Je sais que l'avenir de la langue française passe par l'Afrique pour des raisons bien simples. C'est que la natalité en Afrique est infiniment plus forte que nous et que dans l'avenir, effectivement, on nous donne des statistiques. Eh bien, les Africains seront ceux qui dans le monde, permettront que la langue française existe. Mais en même temps, les Africains, en général, le français, c'est pas leur langue première, voyez-vous. Alors que nous, c'est notre langue première. Elle nous vient de France. Ses racines sont françaises. Et au fil des ans, évidemment, et on va en parler, elle s'est québécisée. Parce que, on a inventé à partir de la langue française, on a inventé selon des réalités qui sont de chez nous.
D'ailleurs, ce que je trouve intéressant par rapport à vous, c'est que vous avez une qualité de français qui est exceptionnelle, sans non plus renier l'anglais, parce que vous parlez bien anglais aussi. Et ça remonte à très loin, parce que pour comprendre, on va voir à quel point les générations d'aujourd'hui semblent peut-être un peu moins alarmées que la vôtre sur la situation du français. Et ça, vous l'avez vécu, une grande partie de ce combat-là pour le français
au Québec. Bien sûr, et c'est pas seulement l'histoire, c'est pas seulement mon histoire. Ça commence pas avec ma naissance, mais c'est sûr. De toute façon, il faudrait peut-être rappeler que la langue anglaise au 19e siècle, que la langue anglaise était majoritaire à Montréal. Montréal était une ville anglaise. Hein? Ça, on oublie ça. C'était des Écossais, c'était ceux qui sont venus, qui ont créé les grandes universités comme McGill, et les Canadiens français, comme on les appelait les Canadiens d'ailleurs à l'époque, sont venus des campagnes, ils sont arrivés à Montréal avec l'industrialisation. Donc, c'était un mouvement qui était inévitable qu'ils viennent vers les villes puisqu'ils venaient de travailler en usine au fur et à mesure que le développement industriel s'est fait. Et donc, quand il y a eu la loi du nombre a été suffisante, Montréal est devenue une ville majoritairement française. Mais ça ne veut pas dire qu'on pouvait parler français partout. Au contraire.
Est-ce que toujours à cette époque-là, les francophones étaient ceux qui avaient des emplois moins bien payés?
C'est pas évidemment, les gens qui étaient en politique. C'est tout le portrait que l'on connaît. Et moi, quand j'étais jeune, dans les années 40, quand j'étais une petite fille et que j'allais au centre-ville de Montréal, chez Eaton, qui existe encore, avec ma mère, j'avais tendance à parler en anglais avec ma mère. Ma mère disait, mais pourquoi tu me parles anglais? Parce que moi, j'ai appris l'anglais à 3 ans. Parce que moi, je viens d'un quartier dans le nord de Montréal, près de la rue Jarry, où il y avait 2 familles anglophones, figurez-vous. Il y avait des Irlandais en bas de chez moi et à côté, c'était des Écossais. Bon, moi, je faisais pas la différence entre un Irlandais jusqu'à ce que la maman irlandaise m'amène cracher devant la reine Élisabeth Ire à Montréal, là, sur la rue Sherbrooke, un jour. Elle a dit « I spit », puis elle parlait pas le français. Elle m'a amené là, j'avais 8 ans, elle trouvait que j'étais smart. Et elle m'a amené là. Et elle est arrivée devant la statue, la reine est assise, là c'est devant l'immeuble, juste au coin de Sherbrooke et Robert Bourassa qu'ils appellent maintenant, bon, et Beaverall là. Et alors elle a craché, elle m'a regardée et elle a dit « spit ». Moi j'ai spité, donc
sans trop savoir
j'ai craché
le
devant la statue de la reine, mais je savais pas. Et après j'ai compris toute l'histoire de l'Irlande et j'ai compris après, j'étais sensible, parce que j'ai compris au fond ce qu'on partageait aussi avec les Irlandais, c'est-à-dire que on avait eu le même conquérant.
Vous avez été conquis, mais
on avait été conquis.
Vous avez quand même été.
Alors j'ai appris à apprendre et j'étais très fière de savoir le parler à 3 ans et demi. Mais ça, nos parents nous racontent. Moi je disais à Jimmy qui habite en bas de chez moi, Jimmy, you're a bad boy. Ça, je savais dire ça 3 ans et demi. Alors donc, quand je venais avec ma mère, j'avais honte. Parce que je savais, dès que je suis arrivée à l'école, de toutes les façons, j'ai compris que le français, c'était une langue de déclassés, que c'était pas la langue des très riches. D'ailleurs, un peu plus tard, quand j'ai eu mon parrain, qui était le frère de mon père, qui était marié avec la sœur de ma mère, ma fameuse tante Edna, dont j'ai parlé dans mes livres, on prenait l'auto, eux, ils avaient une auto, on allait se promener à Westmount, et je vous assure, moi, j'étais assise derrière, et on regardait les maisons de Westmount, on avait l'impression d'abord d'être dans un terrain interdit, et on regardait ces maisons, ces châteaux accrochés à la montagne, et je me demandais si c'était vraiment des êtres humains normaux qui habitaient là, quoi.
C'est un autre monde,
complètement. C'était plus qu'un autre monde, c'était une autre planète. Et ça, qu'est-ce que vous voulez, ça marque. Non, ça marque dans la culture d'un enfant. Alors donc, j'ai compris que parler anglais, c'était un plus.
Vous m'avez parlé de vos voisins, vos jeunes voisins, là, très très jeunes.
Ils ne parlaient pas anglais du tout, français du tout.
C'est ça, c'est quand même ça a été une chance pour vous peut-être d'avoir des voisins anglophones. Vous avez découvert les deux langues en même temps très jeunes, là où on absorbe
rapidement
le langage.
Oui, c'est vrai. C'est pas comme ça que je vivais. De toute façon, moi, j'avais des grands cheveux longs, frisés, très provoquant pour tous les petits garçons, parce qu'à cette époque-là, le harcèlement, mais on dirait que c'est du harcèlement maintenant, les petits garçons, leur spécialité, c'est de nous tirer les cheveux aux filles. Ils nous prenaient des grosses poignées de cheveux. Alors moi, les Anglais, mes amis, Danny et Jimmy, puis toute la petite bande d'amis, eh bien, eux, ils me protégeaient. Ils me tiraient pas les cheveux.
Donc, les jeunes francophones, vous tirez les cheveux.
Oui,
mais...
alors moi, je me suis retrouvée à 7-8 ans, quand on faisait les combats de balles de neige dans les rues, on se battait à coups de balles de neige, là, on se faisait des forts. Moi, j'étais dans le camp des Anglais, figurez-vous. Donc, j'avais...
Vous avez combattu aux côtés des Anglais.
Mais ça m'a permis d'améliorer aussi mon anglais. Bon,
Donc, vous n'êtes pas parti avec la prémisse que l'anglais est l'ennemi, là.
Non.
Parce qu'on a senti quand même dans certains francophones, ça, une certaine haine de...
D'ailleurs, je vais vous dire une chose. La preuve, c'est que le premier anglais à qui j'ai donné un vrai baiser non hygiénique, le French kiss, comme on dit, c'est un anglais qui est venu durant l'été faire un séjour ici. Il était, dont le père était l'amiral de la flotte anglaise, qui s'appelait Ralph. Et finalement, j'ai épousé le conquérant. Mais j'ai épousé le conquérant, que mon mari, qui est un spécialiste du 18e siècle français, du 19e québécois, le plus francophile de tous les Anglais que je pouvais trouver sur la Terre. Alors donc, j'ai toujours eu des liens. Alors après, parce que moi aussi je suis devenue souverainiste à un moment donné, mais après, j'ai compris que au Québec, parler en français, c'était non seulement une langue de déclassés, mais c'était que c'était une langue qui n'était pas respectée. Alors que la langue française, elle est respectée partout dans le monde parce que la France a imposé sa culture dans le monde. Quand j'ai commencé à aller aux États-Unis et que je parlais français dans la rue avec ma mère, je suis allée avec ma mère, et que les gens disaient « Where are you from ?» Moi, je disais « France ». Parce que si j'avais dit le Québec, il aurait dit « What's Québec ? What's that ?» C'est incroyable tout de même. Ça fait partie de mon imaginaire. Alors, le combat pour la langue française, je l'ai mené ici. Le combat politique pour la langue française, parce que c'est là que ça a commencé, ça n'a pas commencé à la Révolution tranquille. Déjà, il y avait des gens qui se battaient. Il y a tous les vieux nationalistes, l'abbé Groux et tous ceux qui ont suivi. À l'université, il y avait Maurice Séguin qui a été l'historien de l'idée de l'indépendance, qui était un professeur extraordinaire. Et c'est là que je me suis, comment vous dire, que je me suis imbibée de l'importance de défendre la langue. Et là, dans le Québec de cette époque-là, tout le centre-ville, on allait là, personne ne parlait français.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Mais vous étiez justement au diapason du reste du Québec. Ce besoin-là pour vous dire il y a un combat à mener, c'était au même moment que le reste du Québec. Mais ce point de bascule-là, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est le besoin de parler français au travail? Est-ce que c'est tout simplement ce...
C'est le respect de soi-même, le respect de ce qu'on était, le respect de la majorité. On était majoritaire, ça on le savait. Ça on nous enseignait que c'était au Québec, on était une majorité de Québécois francophones. On était francophones. Ça a été ça.
Donc ça s'est imposé sans qu'il y ait un élément déclencheur.
Ben, l'élément déclencheur, c'est l'évolution du nationalisme qui a mené forcément à l'option souverainiste que j'ai partagée quand j'avais 20 ans. Et là, on allait faire ce qui s'appelle en anglais des sit-in. On allait s'asseoir dans les restaurants du centre-ville de la rue Sainte-Catherine où on savait que personne ne parlait français et on commandait des œufs. Puis ils disaient we don't speak French. On restait assis là toute la journée parce qu'ils n'osaient pas appeler la police. Mais c'était fastidieux, c'était fatigant parce que dès qu'on mettait les pieds dehors à cette époque-là, on décidait. Enfin, les gens, tout avec mes camarades et tout, ce qu'on décidait, c'est de mener le combat. Donc, c'est fatigant d'avoir à faire ça tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai une sensibilité particulière à tous les Franco qui sont hors Québec, qui posent un geste politique dès qu'ils sortent dans la rue, puis qu'ils essaient de parler français. Puis en plus, la majorité des gens autour d'eux ne parlent pas en plus. Mais ce combat-là, qui s'est articulé, il a fallu attendre l'élection du Parti québécois pour faire la loi 101. Donc, il y avait eu avant.
Avant, il y a eu quelques lois.
Mais bien sûr, la loi 22. Mais ça ne satisfaisait pas, évidemment, les plus militants. Et les plus militants étaient souverainistes. Mais c'était une loi jusqu'au Parti québécois, jusqu'à René Lévesque. Et même René Lévesque, je vais vous dire. René Lévesque, il a confié le mandat à Camille Lorrain. C'est Camille Lorrain, le père de la loi 101. Camille Lorrain était un psychiatre. Je crois que Camille Lorrain a expliqué probablement à M. Lévesque qu'il considérait que c'était humiliant. Il a déjà déclaré que c'était humiliant d'avoir à légiférer pour imposer le français au Québec à nos compatriotes anglophones du Québec. Parce que M. Lévesque, lui, il aurait souhaité que ça soit volontaire. Mais comme c'était évident que ce n'était pas volontaire et que ça ne... Il l'a vécu comme ça. Et probablement que Camille Lorrain a certainement... D'ailleurs, Camille Lorrain a eu des conversations importantes avec M. Lévesque là-dessus, en lui disant qu'il fallait que ça entre dans l'imaginaire québécois. Il fallait donner cette espèce de pouvoir aux Québécois d'exprimer et d'affirmer leur langue. Et c'est comme ça que la loi 101 est arrivée.
Est-ce que ça a été très... tendu ce moment-là où le Parti québécois
extrêmement
ça a tellement
tendu.
Été un raz-de-marée que
non,
les anglophones ont laissé le chemin
non,
pas
non,
du tout.
Non. Et ça, les anglophones ont toujours été leur clientèle, n'est-ce pas? Ils votent à l'époque, ça votait à 95% pour le Parti libéral parce qu'il n'y avait pas plusieurs partis. Donc, c'est évident qu'ils ont protesté contre la loi 101. Tout a été dit sur Monsieur Lévesque et Monsieur Camille Lorrain. Camille Lorrain, on lui faisait des caricatures avec la moustache d'Hitler. René Lévesque, c'est pareil, on le traitait d'Hitler. Je veux dire, ça a été une période extrêmement difficile à vivre. Et donc, ils l'ont fait quand même parce que les Québécois étaient derrière eux. Mais si les Québécois avaient pas été derrière eux, je suis pas sûr que maintenant les Québécois seraient derrière eux de la même façon. Mais là, on sentait que c'était essentiel.
Est-ce qu'on a oublié cette
oui, on a oublié.
Parce que à la fois du côté politique, mais je voyais par exemple des ingénieurs chez Hydro-Québec, des francophones qui ont renvoyé les plans des grands barrages parce que c'était des plans en anglais.
Oui.
Et même s'ils disaient, mais ça va prendre des mois à refaire ça en français. Ils disaient, non, il n'est pas question qu'il y ait un plan pour les grands barrages qui soit en anglais. Ça doit être traduit à 100%. Ça a coûté cher, mais c'est des gens qui y tenaient. Oui. Ça, on a oublié à quel point c'était un combat qui était vif.
C'est-à-dire que l'Hydro-Québec, quand on a nationalisé l'Hydro-Québec, mais ça, on l'a nationalisé très tôt, dans les années 60, à ce moment-là, les ingénieurs canadiens-français ne pouvaient pas accéder parce que les compagnies d'électricité appartenaient aux anglophones, tout était en anglais. Toutes les compagnies d'électricité appartenaient, les plus grosses, les plus importantes, appartenaient aux anglophones, au pouvoir de l'argent anglais. Eh bien, après, ça a permis à des générations d'ingénieurs canadiens-français, et évidemment, ils ne débarquaient pas seulement avec leur science, ils débarquaient aussi avec leur culture, et c'est comme ça que cette institution si forte et si symboliquement importante, l'Hydro-Québec, a été une institution francophone grâce à ça. Mais, peu à peu, quand le Parti québécois a perdu le pouvoir, après, d'ailleurs, un référendum de 80, qui a eu une sorte de dépression collective par rapport au résultat, c'est évident que l'énergie pour défendre la langue est devenue moins importante. C'était plus difficile de mobiliser, parce qu'on a déjà mobilisé des centaines de milliers de Québécois qui descendaient dans les rues pour défendre la langue française. C'est fini aujourd'hui, vous pouvez jamais, il y a personne. Si on descend 10 000, ça va être beau, ça va être énorme. Mais à ce moment-là, tranquillement, et les opposants à la loi 101, qui était quand même la seule langue officielle, sont allés devant les tribunaux et peu à peu, la loi 101 telle qu'elle a été appliquée au début, a été grugée, on lui a enlevé de son mordant parce que les tribunaux ont décidé que c'était pas, donc elle a été confrontée et elle, au fond, elle a perdu de sa puissance à cause de la jurisprudence des tribunaux et puis parce que c'était plus le Parti québécois qui était au pouvoir. Et à côté de ça, la natalité baissant, eh ben, ça explique la situation d'aujourd'hui. Montréal, donc il fallait évidemment que ça soit, il fallait une population compensatoire, et donc l'immigration est devenue plus importante. Et la ville de Montréal, à l'heure où on se parle, la ville de Montréal est majoritairement anglophone et allophone. Nous ne sommes plus, les francophones ne sont plus majoritaires à Montréal. Ça dit quelque chose. On peut pas dire, ben oui, mais c'est pas grave. Mais ça dit quelque chose.
Et est-ce que les francophones parlent vraiment français? Ce sera un peu notre sujet du prochain épisode.
Mais on peut dire que si, dans un premier temps, nos adversaires ont été les Anglais, c'est une image, les Anglais, que c'était les anglophones. Eh bien, on peut dire que nous avons aussi un ennemi, nous-mêmes, parce que les francophones maltraitent leur langue et n'ont plus, trop souvent, n'ont plus le respect de leur langue et n'ont plus la conscience d'avoir une langue exceptionnelle qu'on doit protéger et qu'on doit aimer en la parlant bien.
La qualité du français, c'est ce qui nous attend dans le prochain épisode. Vous êtes bien chill avec ça? Merci, Denise.
Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.